Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry.
Les vraies voix sur Sud Radio, qu'il pleuve ou qu'il ne pleuve pas d'ailleurs, c'est pareil. On est ensemble jusqu'à 19h avec nos trois vraies voix du jour. Morad Aïtabouch, bonsoir à vous.
Bonsoir Jean-Marie.
Vous avez entendu, sale temps demain sur la route. Vous êtes le réalisateur de Sale temps pour sur la planète, sur
sale
France 5.
Sale temps pour la planète, et ouais. A priori quand on écoute ces derniers temps, Rémi, oui. On a vraiment le sentiment que c'est sale temps et que le changement climatique est vraiment en cours.
Oui, en tout cas, on en reparlera justement de la route, je le disais dans le grand débat des vraies voix. Véronique Langlais est avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Présidente du syndicat des bouchers de Paris, motarde par ailleurs. Du coup, vous n'avez pas roulé, hein, vous.
Comment non, ça, j'ai pas roulé.
Vous n'allez pas rouler demain, par exemple. Vous ne partez pas en vacances, pas par
alors,
ce temps-là.
Je ne roulerai pas demain sur les routes des vacances, mais je roulerai quand même.
Toujours,
je roule 7
même
sur
s'il
7,
pleut.
Même sous la pluie, même sous la neige.
Ouais, même sous la neige quand
oui,
vous êtes en moto.
Je mets mes petits stabilisateurs derrière.
Impressionnant. Alaoukili, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Journaliste Sud Radio, votre dernier jour de la première semaine dans Les Vraies Voix, on vous a adopté. Vous n'allez pas partir en vacances demain, si ?
Eh bien non.
Non, pas du tout. Pas du tout. Mais justement,
je ne suis pas du tout motivée par ce temps.
Vous n'êtes pas motivée par le temps. Vous prendrez les vacances quand il fera beau. Vous avez raison. Au programme, les amis, des vraies voix. Est-ce la prison qui pousse à la récidive ? Un tiers des détenus qui sortent de prison ont tendance à récidiver dans l'année qui suit leur sortie de prison. Tiens, c'est la faute de la prison ou c'est les détenus qui étaient déjà récidivistes, d'après vous, brièvement, Véronique ?
Moi, pour moi, c'est une conjonction des deux.
Ouais, un peu des deux. Ouais. Vous êtes en même temps, mais pourquoi pas ? Vive la nuance, il en faut. La France doit-elle accorder l'asile aux auxiliaires afghans de l'armée française, oui ou non, Morad Aïtabouch ?
Forcément, oui. D'abord, je les ai rencontrés à plusieurs reprises, que ce soit en Afghanistan ou en Irak. Et clairement, ça serait les livrer aux talibans en ce moment en Afghanistan. Ils ont récupéré 75% du territoire.
On sera avec l'avocat de l'une d'elles, justement, qui vient de se voir refuser son visa par le tribunal administratif en France.
Pour de mauvaises raisons.
Ouais, on verra ça, justement. On va parler du chassé-croisé, les amis. Tiens, est-ce que vous êtes prêts à opter pour la voiture électrique, vous ? Ça vous dirait, à la Oukili ?
Pas du tout.
Pas du tout ? Vous n'aimez pas la voiture ou la voiture électrique ?
Je n'aime pas les deux.
Vous n'aimez ni l'une ni l'autre. On a trouvé une cycliste ou une piétonne, les amis. C'est formidable.
Non,
sera notre grand débat, en tout cas. Est-ce que vous seriez prêts à opter pour la voiture électrique ? Vous votez sur le Twitter de Sud Radio. Vous nous appelez 0 826 300 300. Mais tout de suite, on se penche sur des chiffres assez inquiétants, d'ailleurs, en tout cas qui nous intriguent, sur la vaccination en Israël.
Les vraies voix Sud Radio.
Israël, qui est le pays qui a le plus vacciné au monde, en tout cas le plus vite, sa population, vient de délivrer des données qui affirmeraient que le vaccin Pfizer-BioNTech ne protégerait plus qu'à 39% contre l'infection après plusieurs mois qui suivraient l'injection du vaccin. Justement, on en parle avec Bruno Mégarban. Bonsoir à vous.
Bonjour.
Et bonjour à vous.
Bonsoir.
Bonsoir, comme vous le souhaitez. Chef du service de réanimation à l'hôpital Larry Boisière. On parle d'Israël et ce n'est pas anodin, Bruno Mégarban, puisqu'Israël vient de commencer la vaccination avec une troisième dose qui a été administrée notamment au président de la République israélienne. Un vaccin qui ne marche plus après plusieurs mois ou qui ne marche qu'à 40% après plusieurs mois. Est-ce que ça veut dire qu'on va devoir se faire vacciner tous les 6 mois ?
Alors, pour le moment, nous n'avons pas suffisamment de recul pour savoir quelle est la durée de l'immunité protectrice qui est conférée par la double dose de vaccin ARN messager. Ce que l'on sait, c'est que malgré les résultats effectivement qui questionnent, qui sont donnés par les autorités sanitaires israéliennes, mais il faut le préciser, non encore publiés dans une revue scientifique, le vaccin reste parfaitement protecteur contre les formes graves de la Covid-19 qui nécessitent une hospitalisation en service de médecine conventionnelle ou en réanimation. C'est d'ailleurs l'objectif principal du vaccin, c'est protéger les individus du risque de faire une maladie grave, voire de décéder. Donc cet objectif reste maintenu.
Donc c'est le plus important. Ça veut dire que même après 6 mois, la personne vaccinée a très très peu de chances de se retrouver en réa, quoi.
Exactement. Et c'est l'essentiel. Maintenant, effectivement, des données récentes qui ont été publiées par le ministère de la Santé israélienne hier laissent penser que le vaccin Pfizer double dose ne protégerait plus qu'à 39% contre le risque d'être contaminé, c'est-à-dire le risque d'être porteur du virus et à ce moment-là ne faire malgré tout qu'une infection mineure, voire aucune infection cliniquement parlante.
Avec ou sans symptômes, soit une petite grippe, soit rien du tout, mais contagieux, quoi.
Exactement. Et donc, je dirais, si ce résultat s'avérait exact, eh bien effectivement, on va dire que les sujets vaccinés seraient toujours à risque de pouvoir éventuellement contaminer d'autres personnes non vaccinées qui, elles, ne seraient pas protégées contre la maladie grave et pourraient en faire une.
Alors c'est le sens de ma question, avant de donner la parole à nos vraies voix qui ont beaucoup de questions à vous poser, Bruno Mégarban. Quel est l'intérêt d'administrer une troisième dose dans la mesure où on sait eh bien, qu'après deux doses, on ne risque plus d'aller à l'hôpital, ce qui était justement l'objectif, ne serait-ce que de tous les confinements, quoi.
Alors aujourd'hui, les autorités sanitaires françaises n'ont pas retenu cette indication de la troisième dose.
Je parle pour Israël.
En dehors, oui. Alors voilà. Donc quand même, en France, ça n'est pas retenu. En dehors des personnes qui ont un déficit immunitaire profond, notamment lorsqu'ils prennent des médicaments immunosuppresseurs, pour lequel déjà depuis au moins deux mois, cette fameuse troisième dose est indiquée. Ouais. Chez tous les autres sujets, les données scientifiques publiées ne montrent pas. Pour le moment, une réduction importante de l'immunité, qu'elle soit par anticorps ou par cellule mémoire, justifiant de cette troisième dose, même si, à nouveau, les données scientifiques, cette fois-ci là aussi publiées, montrent qu'une troisième dose augmente les anticorps de façon extrêmement importante. Ouais. Alors, vous allez me dire, pourquoi Israël se lance dans cette campagne ? Alors, on va dire, effectivement, s'il dispose de données scientifiques, tel que le laisse penser le ministère de la Santé, avec une réduction de la probabilité de protection contre le risque de contamination des personnes vaccinées, ça pourrait rentrer dans une stratégie d'augmenter la protection pour réduire la contamination des personnes vaccinées et donc, on va dire, se rapprocher de cette fameuse immunité collective qui aurait été perdue avec le temps par rapport au début de la vaccination. Mais à nouveau, les données scientifiques ne sont pas publiées et ces données données par le ministère de la Santé israélienne sont contestées par certains experts.
D'accord. Question pour vous, Bruno Mégarban d'Ala Oukili.
Bonsoir, professeur.
Bonsoir.
J'ai une question pour vous relative à ces stratégies françaises qui consistent à favoriser les vaccinés contaminés par le Covid. On a pu voir que désormais, si l'on est vacciné, qu'on a le Covid, on ne va pas subir ce qu'on appelle l'isolement, contrairement aux non-vaccinés. Pareil, Jean-Michel Blanquer a annoncé que les élèves qui allaient avoir le Covid, s'ils étaient non-vaccinés, ils pouvaient quand même aller à l'école. Est-ce que nous, qui avons toujours pêché justement dans le cadre de la vision sur le long terme, on ne devrait pas peut-être arrêter de favoriser donc les vaccinés qui sont contaminés, s'ils font circuler donc le virus et qu'ils n'ont que 39% d'efficacité, enfin, et qu'il n'a plus que 39% d'efficacité pour ne plus le faire circuler?
Alors, donc, on va dire que c'est une très bonne question, effectivement. Alors, les recommandations françaises de, effectivement, de ne pas mettre en isolement les personnes contact vaccinées contre la Covid sont basées sur des résultats anglais qui montrent que la vaccination contre la Covid réduit de façon très importante le risque d'être porteur du virus et le risque de contaminer. Alors, ces résultats, évidemment, ont été acquis très peu de temps après la double vaccination, car le Royaume-Uni a amené la double vaccination beaucoup plus tard qu'Israël. Donc effectivement, en France, aujourd'hui, les doublement vaccinés sont des doublement vaccinés très récents. Le résultat d'Israël, si il devait s'avérer exact, est acquis après un certain délai important écoulé depuis la double vaccination de sa population. D'ailleurs, ce ministère de la Santé israélien estime que la baisse de la protection contre le risque de contamination est d'environ 6% tous les deux mois. Donc on voit bien qu'effectivement, aujourd'hui, dans l'état actuel des choses en France, la stratégie de ne pas demander un isolement aux personnes vaccinées contact est tout à fait valide, s'appuyant sur des résultats scientifiques anglais. Si, bien sûr, les données israéliennes devaient être publiées, eh bien, cette stratégie pourrait être revue une fois que les vaccinés français eh bien, s'éloignerait oui. dans le temps de leur double c'est vaccination. Ça. Il sera alors peut-être temps, justement, de recommander troisième dose.
De réfléchir soit à la troisième dose, soit à l'isolement, en tout cas, parce qu'ils seraient moins protégés. Morad, pour vous, question alors, de Morad à Itabouche.
Depuis la polémique sur l'hydroxychloroquine, on sait pertinemment que les études sont souvent remises en question. On ne parlera pas du professeur Raoul qui a dit beaucoup tout et son contraire et n'importe quoi. Question assez simple, est-ce que finalement ces études qui n'ont pas encore été publiées, donc qui n'ont pas été vérifiées par leur père, est-ce que ces études-là aujourd'hui sont crédibles ou est-ce qu'il faut vraiment, pour le coup, dans cette incertitude qui est la nôtre, est-ce qu'il ne faut pas un peu attendre avant de dire oui ou non, ce vaccin est moins efficace qu'il ne l'était ?
Bruno Mégarban ?
Alors, vous avez raison, donc effectivement, à ce jour, les données communiquées par le ministère de la Santé israélienne ne sont pas publiées, donc ne sont pas vérifiées scientifiquement. Malgré tout, il est toujours intéressant, évidemment, d'avoir un écho assez rapide de la tendance de certaines informations. C'est pourquoi, d'ailleurs, les autorités sanitaires françaises, aujourd'hui, non seulement valident la stratégie des autorités de ne pas demander un isolement des personnes vaccinées contact, mais également ne recommandent pas la troisième dose de vaccination de façon systématique aux personnes de plus de 60 ans, ce qui est désormais recommandé en Israël. Mais il est vrai que la situation de la France se rapproche beaucoup plus de celle de l'Angleterre, c'est-à-dire encore un délai relativement court pour les personnes doublement vaccinées par rapport à leur deuxième dose.
Peut-être que notre retard va nous permettre de passer sereinement le début de l'automne. On verra justement. Véronique Langlais, dernière question.
Moi, c'est une question un peu... je vais me faire un peu l'avocat du diable. J'aimerais savoir si on saurait quelles pourraient être les conséquences de la vaccination répétitive sur l'organisme.
Les effets secondaires après trois doses.
Trois ou quatre, enfin, je ne sais pas jusqu'où ça peut aller.
Bruno Mégarban.
Oui, tout à fait. Alors, on va dire, il n'y a pas de raison, si vous voulez, que le fait de faire des rappels de vaccination entraîne un sur-risque particulier ou des effets indésirables graves qui n'auraient pas été observés au cours des deux premières doses. En fait, en quoi consiste la vaccination ? La vaccination consiste à apprendre à l'individu à reconnaître le plus vite possible le virus s'il se présentait, parce que son immunité en aurait mémorisé l'existence. Et à ce moment-là, il serait prêt, dès l'arrivée du virus, à défendre le corps humain. Donc le rappel consiste tout simplement à lui redire très régulièrement « Attention, système immunitaire, voici l'ennemi, souvenez-vous de lui ». Vous voyez, c'est comme si vous deviez répéter une phrase au cas où on vous la demanderait. Eh bien, le fait de vous demander de temps en temps la lire, vous permet d'avoir une mémoire bien meilleure. Le jour, il faudra la répéter. Exactement. Si vous avez appris une chanson, eh bien, si vous l'avez répétée plusieurs fois,
pour ce qui est des
objets, ça sera bien meilleur.
En un mot, pourquoi il n'y a pas de raison que des effets secondaires qui ne seraient pas survenus à la première ou à la deuxième dose ne surviennent pas du tout à la troisième, Bruno Mégarban ?
Parce qu'en fait, si vous voulez, on va dire, ce système de vaccination ne fait que reproduire les situations naturelles. D'accord. C'est-à-dire, naturellement, on identifie et on reconnaît un agent infectieux pour une première fois, on garde une mémoire, d'accord, et puis à chaque fois qu'on rencontre à nouveau cet agent, eh bien, on restimule l'immunité pour
donc,
pouvoir
lutter
contre.
Donc, si ça n'a pas
contre.
Fait, si ça n'a pas eu d'effet secondaire au début.
Et donc, c'est un processus naturel. Voilà. Exactement. C'est un processus naturel qui est remis en action. Il n'y a pas de raison objective pour qu'il y ait des effets secondaires supplémentaires.
Voilà, pour que ça change ou que ça recommence. Merci beaucoup Bruno Mégarban d'être intervenu ce soir pour nous éclairer sur ces chiffres et ces données qui changent depuis un an et demi régulièrement, mais ça c'est la crise du Covid. Merci Bruno Mégarban. Je rappelle que vous êtes chef du service de réanimation de l'hôpital Lariboisière du côté de Paris. Les amis, restez sur Sud Radio. Les vraies voix reviennent dans quelques instants. On va poursuivre le tour de table de l'actualité. Morad Aitabouche part en vacances, ou plutôt non, il nous parle des présidents qui partent en vacances. À tout de suite.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry.
Les vraies voix Sud Radio avec Morad Aitabouche, Véronique Langlais, Alaa Oukili. Dans quelques minutes, les débats des vraies voix. La France doit-elle accorder l'asile aux auxiliaires afghans de l'armée française? Vous votez sur le Twitter de Sud Radio, vous nous appelez. Tiens, vous êtes peut-être ancien militaire. 0826-300-300. Tout de suite, on poursuit le tour de table de l'actualité. Morad Aitabouche s'est passionné pour une actualité people. Où les présidents passent-ils leurs vacances?
Pas du tout, c'était pour donner passer à un ton un tout petit peu différent de, d'habitude, hein, où je parle souvent de l'Irak, de l'Afghanistan, oui, etc. Non, pourquoi je parle de ça? Parce qu'aujourd'hui, on s'interroge beaucoup. Où va le président Macron? Alors, on sait que maintenant, il va au fort de Brégançon, mais on n'a pas le droit de modifier le mobilier, on n'a rien de rien toucher. C'est absolument incroyable. Maintenant, les Français sont là, regardés sur les réseaux sociaux. Est-ce que Macron va changer tel ou tel meuble dans le château de Brégançon? En fait, on se préoccupait absolument pas des lieux de villégiature et des vacances. Si on prend l'exemple de Georges Pompidou, lui, il avait disparu pendant un mois et demi. 1er août jusqu'à mi-septembre, personne ne savait où il était.
Mi-septembre ?
Un mois et demi. En fait, il avait profité des vacances parlementaires pour s'enfuir et donc il avait décidé de signer juste ici et là quelques documents officiels.
Il était malade déjà ou pas ?
Non, il n'était pas encore malade, mais en gros, à l'époque, on ne s'interrogeait pas et on ne se préoccupait pas des vacances et des lieux de villégiature des présidents. Je ne sais pas où il était, en tout cas, il était peinard.
Et qu'est-ce qui a changé, justement? En même temps, c'est le président qui disait qu'il fallait...
Est-ce que vous vous souvenez que Valéry Giscard d'Estaing avait disparu dans la savane aussi? Il n'avait pas donné de nouvelles, il avait décidé de faire un break et de vivre ses vacances tranquillement. On peut dire aussi que Nicolas Sarkozy, lui, il avait décidé d'aller chez un ami de Cécilia Sarkozy, on s'en souvient, au Canada, chez un ami milliardaire. Donc chacun un petit peu ses petites habitudes, mais c'est vrai que...
Qu'est-ce qui a changé, juste en un mot, avant de donner la parole?
Alors, le septennal quinquennat. Visiblement, depuis qu'on est dans une formule de quinquennat, oui, c'est surprenant, c'est dans un livre que j'ai pu lire ça. La différence, c'est qu'un quinquennat, aucun n'a été encore réélu, et donc, en fait, ils préfèrent rester là, aux aguets, parce qu'effectivement, il faut être à l'affût de la moindre actualité pour présent. Alors que Jacques Chirac, par exemple, peut-être que vous ne vous en souvenez plus, mais Jacques Chirac avait disparu pendant la canicule de 2003. Personne ne savait où il était.
Après, je me souviens,
il était à l'étranger et personne ne se préoccupait
aussi
de son absence.
Il s'était fait taper sur les doigts, il avait dû passer tout un été au fort de Brégançon, justement pour montrer qu'il était sérieux. Il avait même été photographié nu par des paparazzi, ça avait fait beaucoup de bruit.
Mais c'était l'époque du septennat. Et souvenez-vous, Mitterrand a été réélu une deuxième fois, forcément. Jacques Chirac aussi, alors que depuis Sarkozy, on est entré dans un quinquennat, et là, ils n'ont pas été réélus. Peut-être que Macron le sera, mais peut-être pas. En tout cas, on reste présent, on reste sur place. Et depuis François Hollande, on sait aussi qu'on incite de plus en plus, et les présidents, mais aussi les ministres, à rester ici, en France.
En cas de pépin.
Et
Véronique.
Pourtant, je me souviens que, enfin, ça n'a rien à voir, mais que l'épouse de Pompidou avait quand même fait quelques modifications, notamment à l'Élysée, et peut-être même sur les lieux de villégiature, non ?
En fait, ça ne change rien à l'époque, puisqu'il n'y avait pas les réseaux sociaux.
Oui, parce que maintenant,
les Français n'avaient pas du tout à dire « Ah, quelle horreur, quel scandale, on a encore dépensé 200 ou 500 euros. »
C'est parce qu'on a l'impression qu'on touche à notre patrimoine, à nous, Français, qui payons
les impôts. Pas seulement notre patrimoine, le cordon de la bourse.
Je n'ai plus rien à dire, ma collègue vient de tout dire, parce que je voulais justement rebondir sur ce qu'a dit Mourad. Ils ont peur de ce qu'on va changer. Et oui, c'est ça qui a changé à mes yeux. Ouais. C'est l'art contemporain, on fait n'importe quoi.
Alors, vous parlez de Pompidou, ça a changé, vous savez quoi? Un président de la République qui était amoureux de l'art contemporain de son époque, c'était Georges Pompidou. Vous pouvez même le voir dans le palais de l'Élysée. Et ça, pour le coup, c'était tout sauf un conservateur.
Eh bien, écoutez, aujourd'hui, dans le contexte actuel, ce n'est pas du tout au goût des Français. On bascule beaucoup plus à droite, selon de nombreuses études. Et je pense que c'est aussi par peur, un attachement viscéral à un patrimoine qui est en train de partir de déliter, en fumée. Ouais. Et on a envie de regarder parce que ça nous appartient.
Est-ce que notre patrimoine se fossilise, justement? Mais c'est une vraie question, justement, vous avez raison d'en parler. Quoi qu'il en soit, les vraies voix reviennent dans quelques instants sur Sud Radio pour parler de la prison. Est-ce que c'est la prison qui pousse à la récidive? Après qu'une étude nous révèle, des données du ministère de la Justice nous révèlent que un ex-détenu sur trois est tendance à récidiver dans l'année qui suit leur sortie de prison. À qui la faute? Au détenu ou à la prison? À tout de suite.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry.
Les vraies voix Sud Radio jusqu'à 19h, Morad Aitabouche, Alaou Kivi, Véronique Lenglet, sachez-le, chers amis qui nous écoutez sur Sud Radio, même quand vous ne nous entendez pas, nous continuons à débattre, même à nous engueuler.
On a fait
pourquoi
le débat.
Pas. Tout de suite, on parle de la prison.
Les vraies voix Sud Radio.
Alors, ceux qui adoraient cette série télé pourront penser à Prison Break, justement, mais on ne parle pas d'évasion de prison, là. On parle de la récidive. Est-ce la prison qui pousse à la récidive ? Vous votez sur le Twitter de Sud Radio, vous nous appelez 0826 300 300. Dans un instant, on va donner la parole à Bruno, qui nous appelle de Béziers, où il est surveillant pénitentiaire. Sachez-le, des données d'Infostat, du bulletin d'Infostat Justice nous révèlent qu'un tiers des personnes qui sortent de prison récidivent dans l'année qui suit. 5% des personnes qui sortent de prison ont récidivé dans les 30 jours, dans le mois qui a suivi la sortie, et 1 sur 5, 20% dans les 6 mois. Bref, qu'est-ce qui pousse à la récidive ? Est-ce que c'est la prison ? Bruno, bonjour !
Oui, bonjour Jean-Marie, bonjour à tous.
Bienvenue
bonjour.
Sur Sud Radio. Bonjour. Vous êtes surveillant pénitentiaire à Béziers. Vous connaissez les détenus, vous les croisez tous les jours. Qu'est-ce qui fait qu'ils ont tendance, en moyenne, à récidiver dans l'année qu'ils sortent pour un tiers d'entre eux ?
Ben, moi déjà, je suis pas d'accord quand on dit que la prison c'est ce qui pousse à la récidive en fait. Parce que si on parle de récidive, on parle bien des personnes qui ont pris des petites peines, c'est-à-dire 6 mois, 1 an, 2 ans, on ne parle pas des personnes qui ont pris perpétuité ou 30 ans, puisque eux, par définition, avant qu'ils récidivent, il y en a pour longtemps. Donc on parle de délinquants, c'est-à-dire des petits trafiquants de drogue, les violences sur les dépositaires d'autorité publique, ou les vols à la violence, tout ça. Étant donné le nombre de peines alternatives à la prison, les travaux d'intérêt généraux, les peines amendes, la prison avec sursis, les rappels à la loi, etc., etc., et même les peines de prison ferme qui ne sont pas exécutées avec le bracelet électronique.
En gros, toutes les autres peines qu'on donne avant de vous envoyer réellement en prison.
Voilà, ce qui prouve qu'une fois qu'ils sont en prison, c'est qu'ils sont déjà en état de récidive. Et déjà, donc, ils sont souvent des multi-récidivistes. C'est un petit peu comme si on dit que la prison, c'est l'école du crime. Bah, s'ils sont en prison, c'est qu'ils n'ont pas eu besoin d'y passer avant pour faire leur méfait. On est bien d'accord. Donc, quelqu'un qui va en prison, c'est que vraiment, il a tout fait pour y aller. Donc, il est déjà en état de récidive. Alors, effectivement, la prison, il y a des mauvaises fréquentations. Donc, effectivement, ça peut inciter. Mais de dire que la prison, c'est une incitation à la récidive, c'est occulter tout ce qui s'est passé avant.
Et vous, Bruno, vous êtes surveillant pénitentiaire, ce sera ma dernière question depuis longtemps. Est-ce que vous avez gardé le souvenir de détenus qui, au contraire, à cause de la prison, se sont dit « ce coup-ci, j'arrête, je rentre dans le droit chemin
» À l'intérieur des murs, ils nous disent tous ça. Hein.
Bon, d'accord, c'est déjà ça.
Ça, c'est sûr, ils le disent au juge. Voilà, au bout de la 20e condamnation, c'est encore. C'est toujours la même chose. Oui, mais cette fois, ça sera la dernière. Quand on les a en prison, c'est toujours la dernière, hein, évidemment.
Bref, vous n'y croyez pas, quoi.
Non, moi, ça fait un peu plus de 2 ans que je suis à Béziers. On les voit rentrer, on les voit sortir, Et puis quand il y a eu la Covid il y a un an et demi, nous à la prison de Béziers, on était à peu près à 1050 et 1080 détenus, on est tombé à 800. On les a revus, pas tous, mais.
Vous les voyez revenir, quoi. En fait,
oui,
il y a des.
Ça revient.
Malheureusement. Donc, il y a récidive. Merci beaucoup pour votre témoignage, Bruno. Passez une belle soirée du côté de Béziers. Continuez
Merci
à écouter
vous
Sud Radio. Vous nous rappelez au 0826 300 300. Quand vous voulez, c'est la prison ou c'est que les détenus sont déjà récidivistes en moyenne, Morad ?
La question est difficile. Je pense qu'il faut une vraie enquête sociologique à l'intérieur des prisons pour. Effectivement, pouvoir estimer la réalité des réponses à cette question. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu une belle expérience qui a été menée aux États-Unis, qui s'appelle Beyond the Circle, qui a été faite par une sociologue qui avait mis autour d'un rond, comme ça, des détenus jeunes. Et à chaque fois, il y avait 10 questions, et à chaque fois qu'ils répondaient par oui sur ce qu'ils avaient vécu dans leur enfance ou dans leur adolescence, ils devaient avancer d'un pas. Vous imaginez ce qui s'est passé à la fin ?
Ils ont tous avancé ?
Ils étaient quasiment tous au milieu du rond. C'est-à-dire que moi, je ne veux pas non plus à chaque fois excuser les délinquants. Je ne veux surtout pas excuser la récidive. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut aussi, à un moment, avoir une véritable politique pénitentiaire. Une vraie politique pénitentiaire, c'est qu'on n'enferme pas les gens pour les enfermer. À un moment, il faut aussi être capable de leur permettre une réinsertion quand il y a possibilité de réinsertion. Si vous prenez l'exemple de La Réunion, dans le centre de détention de Barzour, ils ont créé un centre d'énergie photovoltaïque et derrière, ils ont fait de la permaculture. Qu'est-ce qui s'est passé derrière ? Il y a eu une vraie politique d'insertion des détenus.
Pour cela, ça a marché.
Pour cela, ça marche, ça fonctionne. C'est-à-dire qu'il faut avoir une politique pénitentiaire.
Véronique Langlais.
Moi, je pense que, en fait, ça dépend aussi, par rapport à cette étude, ça dépend de l'âge des détenus, parce que quand on est plus jeune, on est peut-être aussi plus malléable.
Le risque de récidive est d'autant plus élevé que les personnes sont jeunes au moment de leur entrée en prison.
Et
c'est
voilà.
Ce que révèlent ces données.
Mais évidemment, il faut quand même prendre en compte l'âge des individus, la durée de la rétention aussi.
Enfin, si vous êtes jeune, que vous allez déjà en prison, donc vous avez poussé le bouchon loin, et qu'en plus, vous avez encore plus de chances de récidiver, perdu pour la
société.
Oui,
mais quelle récidive ? Parce qu'il y a aussi les violences routières où on peut se retrouver en prison et on voit que dans la majorité des cas aussi, il y a récidive.
C'est pas certain que la récidive concerne surtout des excès de vitesse, on est d'accord quand même.
Non, mais il n'y a pas que des excès de vitesse.
Non,
dans des excès de...
Il y a des actes
dangereux,
effectivement.
Dans ces violences routières, vous avez aussi, malheureusement, des...
Vous voudriez voir, en tout cas, pour quel type d'acte ils ont récidivé.
Oui, en fait, c'est ça, qu'on ait plus de clarté sur la chose.
Qu'on affine les chiffres, comme pour le Covid. Vous avez raison, pourquoi pas.
Écoutez, moi, je suis très perplexe.
Sur cette étude ?
Oui, sur cette étude, parce qu'il y a d'autres études qui sont faites aussi par des pédopsychiatres, des sociologues, Maurice Berger, pour ne citer que lui d'ailleurs,
par exemple,
qui est vraiment sur le terrain et qui travaille en continu avec des jeunes qui sont dans le CERF où il travaille, donc Centre d'éducation renforcé fermé, et qui explique aussi que la progressivité de la sanction, elle est... aussi symboliquement, on va dire, efficace. C'est-à-dire qu'il faut peut-être, dans certains cas, d'abord priver les personnes qui, donc, commettent des crimes de liberté avant de parler d'insertion. Il faut qu'il y ait une sanction.
De toute façon, aujourd'hui, pour un crime, on est d'accord, en général, vous allez en prison.
Parce qu'ils ont qu'ils n'ont pas été, au départ... encadré quelque part.
Oui, mais ça, c'est une fois que c'est fait, c'est fait.
Une excuse en soi.
Non, mais il faut bien qu'elle serve à quelque chose, la prison. Parce que si on se dit, oui, mais c'est parce qu'on a raté quelque chose.
Oui, mais
enfin,
c'est facile aussi.
Oui,
moi, c'est facile de les enfermer, puis après, les laisser livrer avec des gens qui sont plus ou moins bien.
Non, mais il y a justement pourquoi... Là, c'est la question des moyens qui se pose, la question des protocoles, la question de la politique aussi. C'est pas juste... quand on met effectivement les gens en prison et qu'on laisse les petits délinquants être en contact avec les criminels, voire avec les terroristes, ça n'a aucun sens. Mais on sait très bien que justement les services pénitentiaires manquent de moyens. Il n'y a qu'à voir comment ça s'est passé pendant la crise sanitaire. On s'est mis à envoyer tout le monde dehors.
On a ouvert les prisons.
C'est une catastrophe. Et d'ailleurs, on en a du coup repêché après beaucoup qui sont sortis, qui ont fait n'importe quoi. Entre crimes, escroqueries, violences. Ils n'étaient pas quand même. Enfin, on ne va quand même pas
en
les victimiser.
En tout cas, vous pensez
que.
Ils ont bénéficié.
Ce sont des criminels qui ont bénéficié de la clémence, du miracle
c'était
du
pas
Covid
des crimes,
pour eux.
Pardon, ce n'était pas des crimes quand même. Si on parle de la circulaire de Nicole Belloubet, ça ne concernait pas des crimes.
On a quand même dû voir qu'il y avait quand même des personnes radicalisées. Il y a des personnes qui, dans le Nord, ont agressé des femmes, qui est très violemment, etc.
Il y a eu des actes très
violents.
On ne va jamais gratuitement en prison.
Morad Aïtabouche. Alors qu'ils ont eu la chance de sortir.
Morad Aïtabouche, le mot de la fin.
Moi, je veux sortir un peu de ce débat, parce que encore une fois, il faut être très clair. Quand Barack Obama décide de légaliser le cannabis aux États-Unis, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit d'abord, je n'inciterai jamais mes filles à prendre du cannabis. Ensuite, il dit, si on légalise aujourd'hui le cannabis, vous verrez que les Noirs qui sont en prison, il y en aura 50% de moins aux États-Unis. 50%. Voilà ce qu'il dit. Ça veut dire que là, vous parlez de crimes qui sont des crimes de sang. Quand je vous entends, j'entends parler de crimes de sang. Là, quand on parle, parce qu'il y a des pays qui légalisent le cannabis. Aujourd'hui, en France, c'est interdit de vendre du cannabis,
absolument,
etc. Même pour des raisons thérapeutiques, c'est un peu long. Il n'empêche que ces jeunes-là vont en prison parce qu'ils vendent du cannabis.
Vous pensez que ça réglerait le problème et qu'on
Je ne dis
les
pas
prisons.
Que ça réglerait le problème. Je dis qu'à un moment, il faut se poser et réfléchir à la politique pénitentiaire. Il faut aussi réfléchir à la manière dont aujourd'hui, on va condamner des gamins parce qu'ils vendent du shit. Alors que dans d'autres pays, et y compris aux États-Unis, Barack Obama a fait la preuve que malheureusement, aujourd'hui, la prison était discriminante. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, on va beaucoup plus facilement en prison lorsqu'il s'agit du shit que lorsqu'il s'agit de crimes en col blanc.
Comparer les États-Unis
et puis de
France,
là à dire des gamins, je m'excuse quand même, on sait très bien que les trafics de drogue, ce n'est pas que des petits guetteurs qui rigolent, c'est aussi de l'arme, du proxénétisme, etc. Après, je suis parfaitement d'accord sur la légalisation du cannabis, c'est une grande hypocrisie parce qu'on s'en sert pour calculer le PIB, c'est déjà un intégrer hein, en France, et pourtant on ne légalise pas. C'est complètement
scandaleux. Ça, c'est un autre sujet, mais ce sera un prochain débat dans les vraies voix. Ça, c'est un prochain débat. Légaliser le cannabis. En tout cas, on vous posait cette question, les amis. Est-ce que la prison pousse à la récidive? Vous êtes catégorique, hein, vous répondez non à 71% d'entre vous sur le Twitter de Sud Radio. Tout de suite, on parle d'un sujet autrement plus émouvant, c'est le sort des auxiliaires de l'armée française en Afghanistan.
Les vraies voix Sud Radio.
Et on en parle avec notre invité, Maître Antoine Horry. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Et bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes l'avocat d'une auxiliaire afghane de l'armée française. Elle a 28 ans. On va l'appeler Fatima. C'est le nom qu'on, c'est juste la partie du nom qu'on a. Elle avait demandé l'asile en France. Le tribunal administratif le lui a refusé. Pourquoi ?
Alors, elle n'a pas demandé exactement l'asile, en fait. Elle a demandé à pouvoir obtenir des visas, le bénéfice du fait qu'elle avait un contrat avec l'armée française dans le passé. Mm-hmm. Et c'est sur le bénéfice de ce contrat qui la lie juridiquement à l'État qu'elle a demandé un visa. Alors, effectivement, elle a demandé ça au ministère des Armées qui a implicitement refusé, c'est-à-dire qu'il n'a pas répondu, en fait, tout simplement. Mm-hmm. Et on a attaqué ce refus implicite dans le cadre d'une mobilisation avec d'autres avocats. On est un collectif d'avocats, en fait, qui travaillons pour une association de manière bénévole qui s'appelle l'Association des anciens interprètes et auxiliaires de l'armée française. Ouais. Et donc, on attaque systématiquement les refus de visa et de protection fonctionnelle qui sont opposés aux Afghans.
Comment on explique qu'une femme qui s'est battue avec l'armée française ou qui a aidé en tout cas l'armée française contre les talibans en pleine guerre civile en Afghanistan se voit refouler ainsi?
Alors, en fait, la situation juridique est telle que ils doivent apporter, ces personnes qui sont donc encore sur place, la preuve de ce qu'ils sont actuellement, personnellement et réellement menacés pour avoir exercé des fonctions pour l'armée française. Ouais. Ce sont les trois critères qui sont prévus.
Et ça ne suffit pas à dire je suis une femme, je me suis battue. Ouais. Si je dis, par exemple, je suis une femme, je me suis battue de temps à temps, tout le monde le sait dans mon village, pour l'armée française, en tout cas dans le même camp, ça ne suffit pas de suggérer que si les talibans reprennent le pouvoir, comme ça semble prendre le chemin, je serai en danger?
Alors, effectivement, vous avez beaucoup de rapports qui montrent que ce sont des populations qui sont visées et ciblées par les talibans, mais effectivement, aux yeux de la loi telle qu'elle est appliquée, ça ne suffit pas. Alors après, je fais juste une petite précision. Toutes ne se sont pas battues aux côtés de l'armée française. Ouais. Ils ont eu des rôles assez divers. En fait, on parle des interprètes auxiliaires parce que donc, vous avez des personnes qui assumaient des fonctions d'interprétariat.
Alors n'hésitez pas, Maître Antoine. N'hésitez pas, Maître Antoine Horry, à parler bien près de votre téléphone sans trop vous en éloigner. C'est juste pour la qualité de la liaison sonore. Pardonnez-moi. Vous disiez en gros qu'il y avait beaucoup de profils et que ce n'étaient pas tous des soldats ou toutes des soldates de l'armée française, c'est ça?
Certains sont allés à des missions sur le terrain, effectivement. Ça arrive et c'est souvent établi par des photos qu'on voit et qu'on met dans les recours. Mais beaucoup d'entre eux avaient d'autres fonctions, donc des interprètes, des personnes qui étaient magasiniers, cuisiniers, etc. Mais il faut comprendre que sur place, c'est pas parce que vous êtes cuisinier ou magasinier la plupart du temps que vous n'assumez aucune fonction.
Effectivement. Morad Aitabouche.
Ce qui est terrible dans cette affaire, c'est qu'on ne reconnaît absolument pas aujourd'hui l'état de fait. L'état de fait, c'est que les soldats américains vont quitter le pays et ils vont laisser derrière eux, malheureusement, aussi près de 100 000 personnes qui ont travaillé. C'est-à-dire, effectivement, plus des interprètes d'ailleurs que des combattants. Il n'y a quasiment pas eu de combattants. Il y a eu effectivement des soldats ou des policiers qui ont été formés par les étrangers. Mais ceux dont on parle aujourd'hui sont des gens qui ont joué les rôles d'interprètes auprès des Américains, des Français, etc. Ce qui est bien grave ici, c'est que le bon sens voudrait qu'à partir du moment où vous avez un pays qui va être repris en main par les talibans, c'est-à-dire, grosso modo, aujourd'hui, ils ont 75 à 80% du territoire qui est entre leurs mains. Ça veut dire que derrière, il va se passer quelque chose qui va être terrible. Mais pas seulement pour les auxiliaires dont on parle, pour leur famille. Et là, aujourd'hui, c'est là où c'est grave. C'est qu'aux États-Unis, par exemple, ils ont décidé d'en rapatrier quelques-uns, mais ils sont 100 000 à avoir collaboré avec l'armée américaine. Ouais. Et c'est à peine 10%. Et on ne parle absolument pas de leurs familles qui sont, elles, menacées et vraiment menacées par les talibans.
Et c'est extrêmement inquiétant.
Qui peuvent être dénoncées par la même. En fait, je pense que les talibans ne feront pas de corrélation par rapport au rôle qu'ils ont joué. On va les dénoncer, eux ou leurs proches, et le risque sera là. On est un peu dans la même conjoncture que ce qui s'est passé avec l'Algérie. Il y a un autre parallèle aussi qui n'a rien à voir, mais qui était le Rwanda, où effectivement,
Le Rwanda, c'était pire. On a été en plus complices.
Ça nous parle. Alors nous, à quoi ça nous fait penser, c'est à la situation des Harkis. Par exemple, c'était dans la guerre d'Algérie. Ouais, est-ce que ça a un rapport ou pas, là où qu'il est?
Bah, on pourrait penser que oui, étant donné le rôle que ces civils ont joué auprès de l'armée française. Mmh. Et d'ailleurs, maître, j'ai une question à vous poser, s'il vous plaît. Après Kader Daoudzai, interprète afghan qui avait été assassiné après avoir servi l'armée française en 2018, le 21 juin 2021, c'est Bassir Jean qui a été assassiné par les talibans. Et il est le second auxiliaire afghan de l'armée française à avoir été assassiné. Pourtant, dans une note du Quai d'Orsay obtenue par Le Figaro le 9 juillet, une consigne a été donnée au consulat de France à Islamabad pour ne plus octroyer de visa juste aux Afghans, alors qu'on recevait déjà des informations sur à quel point les talibans avançaient sur le territoire. Et en même temps, on a un interprète, un auxiliaire aussi afghan, qui servait l'armée américaine, qui a été assassiné. Qu'est-ce qui se passe en fait au Quai d'Orsay ? Comment est-il possible que l'on invoque le fait que ces gens-là ne risquent rien
alors même qu'on
sur
a
le
des
plan
précédents.
De sécurité, alors qu'on a des précédents, mais très récents.
Maître Antoine Oury.
Oui, alors effectivement, c'est un problème qu'on rencontre nous à chaque fois qu'on fait des contentieux et qu'on attaque les refus qui sont posés par l'armée française et par le ministère, que ce soit le ministère des Armées ou le Quai d'Orsay, c'est qu'ils déploient une exceptionnelle mauvaise foi dans le cadre de ce contentieux. Et si vous voulez, on vient vous expliquer que finalement, la plupart des éléments de preuve, s'il y en a, à supposer qu'il y en ait, sont des faux, qu'il y a beaucoup de faux qui circulent et qu'en réalité, on n'est vraiment pas certain du fait que ces personnes-là qui ont servi la France soient ciblées. Alors que vous avez, par exemple, des reportages, des vidéos, tout un tas de documentation qui sont écrits, des supports écrits comme vidéos, qui montrent que les talibans ciblent et revendiquent le fait de cibler ces personnes qui ont travaillé pour les forces internationales et qui sont considérées évidemment comme des traîtres. Et d'ailleurs, très récemment, au moment où les États-Unis partaient du pays, donc à partir de mai, les talibans ont publiquement parlé du sort des personnes qui resteraient éventuellement. Et on dit aucun problème, dès lors que vous serez des repentis, nous ne vous ferons aucun mal. On a un précédent dans l'histoire avec les Hezbollah à la fin des années 90. Évidemment, il y a eu une purge qui a été faite au sein de l'administration, mais aussi au sein de la société civile. Il y avait des personnes qui avaient collaboré avec les forces étrangères qui n'étaient pas les mêmes.
Maître, comment vous expliquez cette décision des juges ?
Alors, les juges, effectivement, c'est pas pour leur trouver des excuses, si vous voulez, parce que nous, après, on essaie de pousser pour qu'ils prennent des décisions peut-être plus originales et plus qui prennent en compte aussi la situation. Mais malheureusement, ils sont un peu tenus par la jurisprudence du Conseil d'État qui leur demande de tenir compte des menaces et du fait qu'elles soient personnelles, actuelles et réelles.
Antoine Oury, si je reviens sur le cas de votre cliente, Fatima, c'est quoi la suite pour elle ? Elle est où d'abord en ce moment ?
Alors là, elle est en Afghanistan, elle est dans la province de Mazar-e-Sherif, et la suite pour elle, c'est qu'on a déposé, on va déposer, parce qu'on a 15 jours pour le faire, un pourvoi devant le Conseil d'État, puisqu'on est en appel. Enfin, c'est un pourvoi en fait en cassation, puisqu'on est en matière de référé, donc l'appel se fait devant le Conseil d'État. Et donc c'est ça la suite. Concrètement, les chances de succès en l'état très faibles. En réalité, il faudrait qu'il y ait un vrai revirement jurisprudentiel qui permettent de tenir.
Ou alors que vous lanciez un appel aux représentants politiques, ou pourquoi pas d'ailleurs aux militaires ou au ministère de la Défense. Vous avez un appel à lancer ou pas sur Sud Radio, sera ma dernière question.
Non, pas d'appel particulier à lancer, si ce n'est que voilà, la situation actuellement est figée pour eux et que c'est impossible de leur demander d'apporter la preuve de ce qu'ils sont menacés. C'est impossible.
Mais en tout cas, Sud Radio le fait avec les vraies voix, justement, pour tous ceux qui sont battus ou alors qui ont aidé les soldats français en Afghanistan. Merci beaucoup pour votre intervention, Antoine Oury. Je le rappelle, vous êtes l'avocat de Fatima, 28 ans, qui a aidé l'armée française pendant 2 ans, justement, et on vient de lui refuser un visa, alors même que les talibans fondent sur la Afghanistan. Morad, un mot.
Non, c'était le cas aussi pour nos fixeurs, nos collaborateurs, ceux qui
pour
nous permettaient
ceux
justement
qui travaillent
pour les journalistes
les équipes,
qui allaient en Afghanistan, en Irak et ailleurs. C'est vrai que c'est une vraie responsabilité pour nous et on essaye le plus souvent de se battre. Mais la solidarité en France est difficile parfois sur ces cas-là.
La conclusion.
Eh bien, ma conclusion, c'est que, étant donné aujourd'hui que la France est une vraie passoire, j'invite cette femme à peut-être faire comme tout le monde et traverser le territoire français pour demander l'asile et ne plus être virée, parce que visiblement, ça marche pour les autres, mais pas pour ceux qui sont vraiment en danger.
Mais la route est longue et la route est aussi dangereuse. Quoi qu'il en soit, on vous posait cette question, est-ce que la France doit accorder l'asile aux auxiliaires afghans de l'armée française ? Vous avez voté oui à 67% d'entre vous. Restez sur Sud Radio, on se retrouve dans un instant. On va se détendre un petit peu, malgré tout, avec les rois de l'info. À tout de suite.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry.
Les vraies voix à Sud Radio jusqu'à 19h. Morad Aitabouche, toujours présent.
Évidemment, toujours au poste.
Alaa Oukili, toujours au poste.
Je vais y arriver.
On va y arriver, Véronique Lenglet, vous allez y arriver.
Effectivement.
Tout de suite, on va jouer. C'est Rouy.
Les vraies voix Sud Radio. Le roi de l'info.
Je disais donc, tout de suite, nous allons jouer 0826-300-300. On accueille Sylvie. Bonsoir à vous.
Oui, bonsoir tout le monde.
Bonsoir.
Vous nous appelez de Damazan. Tiens, Sylvie, je vais vous proposer de choisir l'une de nos trois vraies voix avec laquelle vous allez jouer contre les deux autres. Morad Aitabouche, Alaa Oukili ou Véronique Lenglet.
Véronique Lenglet.
Allez, c'est parti. Je vous rappelle la règle.
Gracias.
Ma chère Sylvie, je vais vous poser trois questions. Vous répondez toute seule, j'insiste. Et en premier, vous avez le droit de vous tromper, que je vous donne ou non des indices. Si vous vous trompez, c'est pas grave. Ou si vous séchez, les vraies voix répondent à votre place. Si c'est Véronique qui l'a, elle vous rapporte le point. On est parti ?
C'est parti.
Allez, première question, ma chère Sylvie. Nous sommes le 30 juillet. C'est l'anniversaire d'un chanteur français qui fête ses 49 ans aujourd'hui. Est-ce que vous reconnaissez la voix ? Le réalisateur de Sud Radio a choisi à dessein la chanson la moins connue, pour être sûr que ce soit la voix.
J'imagine.
Alors, vous l'avez ou pas,
hein? Vous avez des propositions ou pas?
Non, pas de propositions.
Moi, je sais. Hein.
Alors, Véronique, là, donc vous avez déjà gagné. On va vous laisser deviner quand même.
M.
Non, c'est pas M.
Non. Pourtant, il a 50 ans aujourd'hui, d'ailleurs.
M a 50 ans aujourd'hui.
Non, non.
Non, oui. 49 ans, il a 50 ans aujourd'hui, le chanteur, j'avais dit le 49 chanteur. Ans, c'était hier.
Ah oui, non, mais alors,
bon, on est tombé sur une fan.
Indices, alors,
mais non, mais je suis pas
Jean-Marie.
Fan.
Alaa, vous l'avez ou pas?
Pas du tout.
Pas du tout. Si je vous dis dans un ascenseur, ça vous dit quelque chose ou pas, Sylvie?
Dame quoi?
Dans un ascenseur, ça c'est la plus connue.
Ah,
oh, Carlo Ferro. Voilà. Bravo. Effectivement, je vous l'ai donné parce que je savais que Véronique l'avait, elle est dans votre école. Calogero, justement, né le 30 juillet 1971. On lui souhaite un très joyeux anniversaire.
Justement, je lui ai envoyé un texto ce matin,
sans
il était
blague. Ravi. J'ai des amis stars, j'arrive, je le raconte à la radio. Allez, on continue, vous avez déjà un point, Sylvie. Deuxième question, une athlète australienne, sais-tu devinette, je vais vous donner des indices. Une athlète australienne, donc, est devenue championne olympique de kayak après, ma chère Sylvie, avoir réparé son kayak d'une drôle de manière. D'après vous, elle s'est servie de quoi? Réponse numéro 1, elle a bouché un trou sur le kayak avec du chewing-gum. Ça, c'était
ça
la réponse numéro 1.
Ne parle pas de ça. Ça googlise.
Vous inquiétez pas. Ça, c'était la réponse numéro 1, Sylvie. Elle a bouché un trou du kayak avec son chewing-gum. Réponse numéro 2, elle a rafistolé son kayak avec du scotch. Réponse numéro 3, elle a enveloppé la pointe de son kayak avec un préservatif. D'après vous, c'est quoi?
C'est dur. La 2, c'était quoi?
Alors, elle a pris du chewing-gum, elle a pris du scotch ou elle a pris un préservatif?
Du chewing-gum.
Vous êtes plutôt chewing-gum. Qui?
Moi, j'aurais dit pareil.
Non. Capote. La capote.
Exactement.
Qu'est-ce qu'elle faisait avec une capote dans son kayak?
Et d'ailleurs, elle a des origines françaises.
Qu'est-ce qu'elle faisait avec ça?
Absolument. Mais je vais vous expliquer, en fait. Elle l'a expliqué elle-même, cette athlète. Elle s'appelle Jessica Fox. Elle avait le bout de son kayak qui était un peu abîmé. C'est du carbone, du coup, qui était un peu rugueux. Elle a enveloppé le bout de son kayak avec le préservatif. Et elle explique, je parie que vous ne saviez pas que les préservatifs pouvaient être utilisés pour réparer un kayak. C'est ce qu'elle explique. C'est très extensible. C'est solide et ça donne une carbone, une finition lisse, vous voyez? C'est formidable. Et en plus, ça glisse, Sylvie. Allez, dernière question. Nous sommes à la veille du chassé-croisé. C'est classé rouge, vous l'avez entendu dans les infos Sud Radio, sur la route d'après Bison Futé. Au fait, Sylvie, ça vient d'où ça? Bison Futé. Réponse numéro 1. C'est la traduction du même système aux États-Unis qui s'appelait Smart Bison. Réponse numéro 2. C'est le nom de la mascotte d'une campagne de pub dans les années 70 avec un chef indien. Réponse numéro 3. Ça vient du fait que le bison est réputé pour son légendaire sens de l'orientation et les embouteillages de troupeaux.
C'est pas la 2?
Si, bravo. Oui. C'est la pub.
C'est bon,
c'était un chef indien, la campagne de pub pour justement se diriger sur la route. C'était en 1976 que ça avait été lancé par le ministère des Transports. Campagne de com, justement pilotée par le désormais populaire chef indien qu'on avait baptisé Bison Futé. On vous embrasse, Sylvie.
Et qui a gagné?
Bravo,
c'est
bravo,
Sylvie qui a gagné.
Sylvie.
Bravo, on l'embrasse très fort. On lui souhaite de très belles vacances
et
à l'écoute
bel
de
été.
Sud Radio. Les vraies voix reviennent dans quelques minutes, juste après le journal Sud Radio. À tout de suite.
Que parfois je m'ennuie, je cherche celle qui serait mienne, mais comment faire pour la trouver?
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry.
Les vraies voix Sud Radio jusqu'à 19h avant de prendre la route pour le chassé-croisé. Chers amis, on est toujours avec Morad Aïtabouche.
Bonsoir Jean-Marie.
Rebonsoir Morad Aïtabouche. Vous avez eu peur d'une question piège, c'est pour plus tard, ça va venir. Je le rappelle, réalisateur de la série Sale temps pour la planète sur France 5.
Et un carton tous les mercredis, on est super content de la fidélité des téléspectateurs. Ça continue encore deux mercredis, donc formidable, merci beaucoup.
Et ben on les embrasse aussi, on espère qu'ils écoutent Sud Radio où ils sont les bienvenus. Véronique Langlais, toujours avec nous. Rebonsoir. Présidente du syndicat des bouchers de Paris. Et Ala Oukili, journaliste Sud Radio. Toujours de bonne humeur?
Absolument.
Absolument. Elle réfléchit quand même avant de répondre, au cas où elle aurait un doute. Au programme de cette dernière heure, tiens, qui a déjà conduit une voiture électrique? Conduit, essayé.
Essayé, hybride. Oui.
Ouais. Une voiture hybride.
Hybride, donc sur l'électrique aussi, Morad, ouais. Véronique.
Ça a la pêche. Hein.
Ça a la pêche, ouais. Ça démarre fort, le couple est très fort.
Bah, ouais. Avant, nous avions des voitures dans Paris qui étaient branchées partout.
Pour les Parisiens comme vous, effectivement. Bon, bah là, c'est passé à autre chose. Vous avez déjà essayé ou pas, vous?
Non, ça ne me tente pas du tout.
Eh bien, sachez-le, un Français sur deux, par contrainte ou par choix, se donne 5 ans pour passer à une motorisation moins polluante. On en parle justement dans notre grand débat la veille du chassé-croisé. Êtes-vous prêt à passer à la voiture électrique? Vous votez sur le Twitter de Sud Radio. Vous nous appelez 0826 300 300. Et puis dans un instant, on va prendre des nouvelles des pharmaciens du côté de Montélimar notamment. Ils sont débordés. Plus de vaccins, plus de dépistages à cause du Covid et à cause d'Emmanuel Macron et du pass sanitaire. Vous verrez, ils ne savent plus où donner de la tête. Mais tout de suite, le tour de table.
T'es partant pour un deuxième tour.
Non, il faudrait sérieusement penser à grandir la table.
À mon tour.
Le tour de table.
De l'actualité.
Alors, on va essayer d'agrandir la table, mais je ne sais pas si deux personnes se mettront autour de cette table, notamment Brigitte Bardot et Robert Ménard, le maire de Béziers, à Ala Oukili.
Eh bien oui, effectivement, j'ai choisi de parler de ce crépage de chignon entre Robert Ménard et Madame Bardot, car depuis lundi, donc dans des villes réputées taurines par excellence, comme Béziers, Bayonne et Perpignan, la Fondation Brigitte Bardot a affiché des grands panneaux montrant un taureau. Donc ce taureau qui était dans une arène, accompagné du texte « Spectacle, garanti avec souffrance animale » et le slogan « Stop à la corrida ». Donc le maire de Béziers, Robert Ménard, fan de la tauromachie, n'a pas apprécié, et c'est son droit. Il a décidé de riposter, et c'est son droit également, mais ce n'est pas le bon goût qui a distingué sa réponse.
Donc qu'est-ce qu'il a fait, Ménard?
Eh bien, à son tour, il a placardé des photos de Brigitte Bardot sur ses espaces publicitaires dans sa ville. Et sur ses affiches, donc, on voit une photo de l'actrice, Brigitte Bardot, à l'époque, très jeune.
De sa fringante jeunesse, exactement. Femme la plus belle du monde.
Et en arrière-plan, un cliché du matador espagnol Luis Miguel Dominguín. L'affiche indique... Ils se sont tant aimés, suivi de cette mention que je trouve très problématique. Mmh. Avec les matadors, Brigitte n'a pas toujours dit non.
Mais c'est dégueulasse.
C'est abominable. C'est misogyne. Mmh. C'est de très mauvais
goût. C'est vulgaire.
En gros, quand il s'agissait de passer du bon temps, Madame Bardot elle se gênait pas trop. Quoi.
En gros, il colporte une liaison et le fait qu'elle aurait eu une liaison, ce qu'elle a démenti en plus, mais c'est même pas le problème.
Oui, mais il répond à de la provoque par de la provoque.
Excusez-moi.
Alors, si tous les coups sont permis, je veux bien croire, mais moi, je sais pas ma philosophie.
Mais on a eu pardon.
Par contre,
oui.
Je voudrais juste quand même continuer cette histoire pour les auditeurs, c'est très passionnant. La présidente de la Fondation Bardot a donc effectivement été directement mise en scène et sur une présumée ancienne relation qu'elle a démentie, mais elle avait aussi beaucoup d'humour, contrairement aux détracteurs de Robert Ménard, parce qu'elle a préféré donc retweeter Ménard, qui, sous la pression et les insultes, avait décidé qu'ils allaient retirer ses affiches et qu'ils ne voulaient évidemment pas blesser. Elle a choisi de dire « Si j'avais eu une aventure avec un toréador, j'aurais rapporté les oreilles et la queue. »
Oh, joliment répondu quand même, hein.
Elle a de l'humour, contrairement à Robert Ménard.
En tout cas, là-dessus, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est beau, hein. On peut valider la réponse de Brigitte Bardot. Non, mais Véronique, vous dites que...
Non, mais ils sont dans la provoque perpétuelle.
Qui,
récemment,
Brigitte Bardot
vous avez
une affiche qui dit la corrida, c'est la souffrance
récemment,
animale.
Récemment, alors je crois que c'est également son association qui avait mis en avant les chasseurs en expliquant sur les routes de France que... Je peux pas vous donner le texte.
En les accusant d'être dangereux, effectivement. effectivement commettre des accidents.
C'est un
sauver
peu
des vies, rester chez vous,
c'était
la habitude. Campagne.
Après, qu'elle ait eu une réponse de la sorte, bon, moi, ça ne m'a pas choqué plus
on
que ça.
On
n'attaque
pas la vie privée. On colle... Enfin, je ne sais pas, vous êtes, on imagine que vous ne serez jamais végane ou antispéciste. Est-ce que vous imaginez...
Est-ce
que vous imaginez une campagne de pub avec votre visage, Véronique Lenglet, et un homme derrière est marqué « Véronique n'a jamais dit non aux antispécistes ».
Mais oui,
ça vous ferait marrer, vous ?
Mais ça ne me ferait pas marrer. Mais bon, c'est la guerre, ma pauvre Lucette.
C'est la guerre, ma pauvre Lucette.
Oui, maintenant, on est dans un débat avec les réseaux sociaux. On est en débat où tout le monde se permet tout. On est dans la liberté d'expression. Pression, voilà. Et malheureusement, voilà où on en est.
Le mot de la fin ?
Oui, ouais. Bon, le mot de la fin, c'est bon, on peut aussi accepter que l'on ne trouve quelque chose pas, qu'on trouve quelque chose de mauvais goût. Elle n'a pas porté plainte, elle n'a pas menacé de quoi que ce soit.
Non, mais
elle a réagi
dans,
à sa façon.
Dans une réponse, voilà.
Morade à Itabouche.
Non, mais je trouve Brigitte Bardot sur ce Fair coup play. Formidable. Mais elle est drôle, absolument. Franchement.
Ouais. Moi, voilà,
il y a longtemps qu'on ne l'entend pas.
Pour le coup, oui.
Mais ainsi, et je trouve ça dommage.
C'est de bonne
guerre. Moi, je fais partie des gens qui adorent bébé, qui adorent et Dieu créa la femme. Mais je trouve qu'elle est drôle. Là, franchement, c'est drôle. Et surtout quand il s'agit de moquer Robert Ménard, que je n'apprécie vraiment pas.
Voilà.
Et c'est pour des raisons qui sont liées à Reporters sans frontières et pas autre chose.
Et ces tweets, Morad, est-ce que tu les aimes, ces tweets, par exemple ? On pourrait se reposer cette question avec la musique du mépris. C'est vrai qu'on est quand même tous restés un peu amoureux de Brigitte Bardot, l'éternelle, avec cette musique.
Mais elle reste très, très glamour.
Non, mais clairement, oui, bien sûr. Bébé, j'adore.
Bravo, bébé.
Et elle incarnait surtout cette image de beauté française, formidable.
Tout le monde est d'accord ici ?
Partout dans le monde.
À ce niveau-là, oui.
À ce niveau-là,
après,
oui.
C'est dans nos débats.
On a compris, vous aimez la viande, mais vous n'êtes pas la seule à cette table. Véronique Lenglet, justement, elle entend parler, Véronique, de Brigitte Bardot. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle nous parle d'un autre sujet dans le tour de table. Elle nous parle du burger le plus cher du monde. Allez-y.
Voilà, en fait, savez-vous où se trouve le burger le plus cher du monde ?
Alors, j'aurais tendance à vous dire en Arabie Saoudite, au Koweït ou à Dubaï.
Absolument pas. On a récupéré la palme en Europe, dans un restaurant. Non, dans un restaurant des Pays-Bas.
Ah.
Auparavant, c'était
Pays-Bas forcément cannabis.
Voilà, non, rien à voir. Auparavant, c'était un burger qui venait des États-Unis, qui était.
Donc c'est aux Pays-Bas.
Il m'a demandé de faire quoi ? Voilà. Alors, est-ce que je vous donne la composition ?
Ah oui, on est impatients.
Donnez-moi, je veux la recette. Qu'est-ce qui coûte cher ?
Alors la composition du burger à 5 000 $ quand même, 5 000 €, pardon.
Des
truffes. Le burger.
5 000 €.
Vous avez, oui, 5 000 €. Vous avez du caviar, bœuf wagyu en provenance du Japon.
Attendez. Du bœuf de Kobe, du coup, j'imagine.
Non,
le
du bœuf wagyu.
Wagyu, oui, donc le meilleur du meilleur.
Du crabe royal qui est cuisiné dans du chablis. Oui. De la truffe blanche en provenance d'Italie.
Oui.
Du caviar beluga. Du jambon bellota.
Oui.
Des petits pickles de tomates et de concombres.
Oui.
Avec une mayonnaise au safran.
Ah.
Confectionnée avec des œufs de canard.
Mmh.
Et une sauce barbecue avec un scotch millésimé. La pâte des petits pains est faite avec du Dom Pérignon. Voilà. Elle est garnie de feuilles d'or. Et elle laisse donc
l'excellence à l'européenne, non ? Quand même, on a pratiquement un tour de la gastronomie européenne, l'Italie, la France.
Absolument. Enfin là, c'est un petit peu, en mon sens, c'est quand même un petit peu trop.
Non, mais c'est bien quand même. Vous me l'offrez
trop,
ou pas ?
Trop.
Non, mais vous êtes la patronne des bouchers de Paris.
Justement,
mais vous souvenez du steak de Ribéry ?
Justement, je vous parlais de la précédente palme.
Il pèse combien ?
Ah, ça, je ne sais pas. J'ai pas l'info. Mais je vous parlais de la précédente palme, quand même, qui était détenue à Las Vegas, avec un burger à 5 000 $.
Ça devait être de moins bon goût, c'est
Las Vegas. Eh bien non, pas du tout, parce que c'était aussi confectionné avec du bœuf wagyu. Mais la particularité de celui d'outre-Atlantique qui me plaît davantage, c'était qu'il était servi avec un verre de Petrus 1995.
Ouais, bon, la moitié du burger, du prix du burger était dans le verre, en toute logique.
Voilà.
Alors que là, c'est sans boisson, du coup.
Là, c'est même pas sans le menu, boisson, mais c'est quand même servi avec des beignets aussi d'oignons qui sont également confectionnés avec du Dom Pérignon.
Vraie question, tiens, Morad faisait allusion à Ribéry qui s'était fait engueuler alors qu'il n'était pas le
seul,
premier.
D'ailleurs, parmi les footballeurs.
C'était moins cher quand même, la
viande.
Fameuse côte de bœuf.
Je rappelle.
Avec des feuilles d'or, absolument.
C'était à Istanbul avec un célèbre Instagrammeur boucher. Bon, est-ce que vous les comprenez, ceux qui sont prêts à s'offrir 5 000 € à un burger ? Absurde ou pas ? Caprice ou pas ?
Caprice.
Vous le feriez si vous les aviez ?
Non, mais caprice, mais je crois que c'est surtout une forme de communication ou de marketing publicitaire.
Ah bah, au point où ils en sont, j'espère quand même que quelqu'un le mange.
Ils vont parcourir le monde pour aller déguster burger.
Mais bien sûr, mais c'est pour celui qui fait ce burger, c'est évidemment une pub énorme. Après, vous en parlez dans une radio avec des millions d'oreilles.
Ça donne faim.
Ça donne faim.
Robert,
moi, je trouve ça plutôt intéressant, en tout cas dans la démarche, parce qu'on est vraiment dans la gastronomie. gastronomie et l'excellence. Ouais. Tous les produits dont vous avez européen. Parlé, y compris le safran qui vient d'Iran, c'est formidable.
Hormis le bœuf du
hormis
Japon.
Le, ouais, le principal. Mais Alain, ouais. Ça vous donne faim ou pas, vous, ça?
Non. Moi non plus.
Non.
Non.
Non, vous mettez. Bon, imaginons que vous épousiez un chèque ou alors un milliardaire, un oligarque.
Non, mais on ne mélange pas canard et voilà.
Ah,
voilà,
non,
mais.
Faute de goût.
Non, œuf de canard. Non, mais pour la mayonnaise.
Oui, mais.
Allez,
c'est rare.
Restez les amis sur Sud Radio. Vous voyez, oui, il n'est que 18h18, mais les vraies voix ont déjà faim. On se retrouve dans un instant. On va justement aller dans une région où on mange sublimement, mais c'est à Montélimar, retrouver un pharmacien qui nous expliquera pour d'autres raisons à quel point en ce moment il est débordé. À tout de suite sur Sud Radio.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry.
Les vraies voix Sud Radio, dans quelques minutes, notre grand débat, alors qu'une bonne partie des Français vont prendre la route demain pour le chassé-croisé entre juilletiste et aoussien. On vous pose cette question, est-ce que vous seriez prêt à passer la voiture électrique? Vous votez, vous nous appelez 0826-300-300 tout de suite, direction Montélimar. Bonsoir à vous Gilles Bonnefond.
Bonsoir.
Président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine pharmaceutique, pardonnez-moi, vous êtes par ailleurs pharmacien, je le disais, à Montélimar. Pharmacien débordé, par quoi en ce moment?
Débordé par la vaccination, puisque quand on a des doses, eh bien, on a beaucoup de demandes et du patient veut se faire vacciner le plus vite possible pour avoir leur seconde injection et leur passe sanitaire et être tranquille. On voit des adolescents qui viennent se vacciner, de futurs étudiants pour être tranquilles pour la rentrée, et puis des personnes âgées. L'autre jour, j'ai vacciné une personne qui est née en 1929. Vous voyez, ça fait plaisir de voir cette personne venir se faire vacciner. Donc ça, c'est la première chose. Et la seconde, ce sont des tests antigéniques, puisque avec le pass sanitaire aujourd'hui, on a beaucoup de demandes de tests, à la fois parce qu'il y a malheureusement du positif, et donc des patients contacts.
Donc ça flambe.
Ça flambe, ça flambe.
Alors parlons des tests positifs, c'est un tous les combien?
Ah, écoutez, là, on avoisine les 10% de positivité, donc ça veut dire que c'est en train de monter très très fort, et Montélimar n'est certainement pas la région la plus impactée. On a un phénomène qui est, il faut pondérer, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent faire des tests juste pour le week-end. Par contre, d'autres viennent parce que justement elles sont susceptibles d'avoir été en contact. Voilà. Ce qui veut dire le taux de positivité est encore plus faible que la réalité. D'accord. Et donc, ça veut dire que c'est pas bon, que c'est en train de flamber et qu'il faut faire énormément attention.
Donc, en gros, vous en découvrez beaucoup. Donc, c'est presque comme si le pass sanitaire tombait à pic, parce que du coup, il y en a qui découvrent qu'ils sont positifs avant d'aller en boîte de nuit. En général, ceux qui viennent pour le pass sanitaire, c'est pour faire quoi?
Alors, ceux qui viennent pour le pass sanitaire, c'est pour le week-end, c'est pour les soirées, c'est pour aller à un spectacle, c'est pour aller en boîte de nuit. Voilà, donc pour avoir des activités culturelles ou des activités sportives pendant le week-end. Et puis d'autres qui viennent parce que voilà, ils ont été en contact lors d'une soirée avec une personne qui a été positive et qu'il fallait absolument être sûr que les 30 personnes ne soient pas impactées.
C'est des cas contacts.
Malheureusement,
qui viennent.
Et malheureusement, on voit que ce virus Delta a une efficacité redoutable sur la contamination et ce n'est pas un bon signal.
Voilà, je vais donner la parole aux vraies voix dans un instant. J'ai une dernière question. Est-ce que l'augmentation de la vaccination qui a repris après le 12 juillet, elle se poursuit ou est-ce que ça s'est quand même bien tassé?
Ah non, il n'y a pas d'essoufflement, au contraire. Les listes d'attente augmentent. Les centres de vaccination, les pharmacies, les cabinets médicaux, on voit qu'il y a une réelle volonté de se faire vacciner et un élargissement de la population avec des jeunes qui veulent être vaccinés. Non, non, il n'y a pas d'essoufflement. Oui. Au contraire, ça s'accélère. La seule limite aujourd'hui, c'est l'approvisionnement en doses qui reste important, mais qui est le facteur limitant.
Voilà, qui est ce pour vous, en tout cas, Véronique Alaoukli, pardonnez-moi.
Oui, bonsoir. Moi, j'avais une petite question à vous poser, peut-être un peu bête, mais je ne m'y connais pas du tout, et je me demande pourquoi est-ce qu'on va arrêter de rembourser les tests PCR, mais pas les tests antigéniques?
Alors, à mon avis, c'est un abus de langage. Je pense que les deux sont dans le collimateur pour être déremboursés, mais pas intégralement. C'est-à-dire qu'ils seront déremboursés pour ce qu'on appelle des tests de complaisance, c'est-à-dire pour aller à un spectacle ou pour aller sur une manifestation sportive quand on n'est pas vacciné. Par contre, toutes les personnes qui sont symptomatiques et qui seront contacts auront bien évidemment un test qui sera pris en charge par l'assurance maladie. La seule chose que l'on dit au pouvoir public, ne faites pas la bêtise de dire il faut aller d'abord chez le docteur avoir une prescription pour après revenir au laboratoire ou revenir chez la pharmacie faire un test, ça va encombrer les médecins.
C'est ça. Ils ont mieux à faire, surtout si ça flambe. Véronique Langlais, question.
Ouais, j'avais une question. Qu'est-ce qu'il en est des autotests ? Est-ce que vous en vendez beaucoup ? Vous avez des demandes ou pas ?
Alors ça redémarre, les autotests, parce que un certain nombre de personnes qui sont dans des soirées sont précautionneuses et préfèrent être sûres que toutes les personnes qui sont là ne sont pas contaminées, donc il faut bien le faire. C'est un écouvillon, il faut bien rentrer 3 cm dans le nez et bien tourner, pas juste le faire au bout du nez, il faut bien le faire. Mmh. Oui, ça redémarre, et les pouvoirs publics sont en train de travailler avec nous pour les rendre accessibles dans des grands clusters, comme un camping où on détecte des cas positifs. Il faut tester des 300-400 personnes du camping. Tests antigéniques, tests PCR ne sont pas adaptés. Ou c'est l'ARS, l'Agence régionale de santé, qui vient avec un renfort. Ou alors, on organise avec des professionnels de santé des autotests. On appelle ça des autotests supervisés, c'est-à-dire qu'on va aider la personne à bien faire son prélèvement. On va interpréter le résultat et l'enregistrer sur la base de données nationales pour dire si c'est positif ou négatif. Ou ça va se développer.
Ça va se développer. Bon courage en tout cas à tous les pharmaciens qui ne savent plus où donner de la tête.
Pas de vacances.
Pas de vacances pour les pharmaciens. Bon courage, courage. Bonne forme. En même temps, vous êtes à Montélimar. Écoutez, si vous saviez le nombre de Français qui vont à Montélimar pour les vacances, après tout, bon courage
même. On a un petit peu de monde parce que effectivement, les gourmands viennent à Montélimar.
Le nougat.
Président Gilles Bonnefond de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine. Vous êtes par ailleurs pharmacien, je le disais, à Montélimar. Restez sur Sud Radio, les amis. Si vous voulez aller à Montélimar, tiens, demain, pendant le chassé-croisé, vous auriez pris une voiture électrique. Est-ce que vous êtes prêt à y passer ? C'est notre grand débat tout de suite.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry.
Les vraies voix Sud Radio avec Alaou Kili, avec Véronique Langlais et Morad Aïtabouch. Tout de suite, on va prendre la route, les amis. C'est le chassé croisé. Est-ce que vous êtes prêts à passer à l'électrique ?
C'est quand même bien mieux une voiture propre, non ?
T'as pas encore compris que cette bagnole-là, c'est du bidon ?
Nom de Dieu !
Nuit ! Jour !
C'est pas Versailles, ici !
Nuit ! Jour !
C'est pas Versailles, ici !
On va pas s'engueuler pour une bagnole !
Les voitures, je suis contre. À cause de la pollution.
Elle le sait bien, tellement bien. Ma nouvelle voiture, elle marche bien.
Et on embrasse le réalisateur des Vraies Voix Sud Radio pour ce magnifique montage. On accueille notre invité, Yves Cara. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Jour,
bonsoir.
Nuit, justement, Yves Cara, porte-parole de l'Automobile Club Association. On vous pose cette question pour le grand débat des vraies voix, chers amis. Est-ce que vous seriez prêt à opter pour la voiture électrique ? Vous votez sur Twitter, vous nous appelez 0826-300-300. Une enquête, alors là, on est la veille du chassé-croisé. Il y a quelques jours, une enquête de l'Institut de sondage Ipsos s'est parue qui révélait qu'un Français sur deux se donnait 5 ans pour réduire son impact environnemental dans ses déplacements. 1 sur 3 pour opter pour un véhicule qui pollue moins, soit un hybride, soit un électrique. 1 sur 3, ça paraît énorme. Est-ce que la production de voitures et la distribution de voitures électriques peut suivre ? Première question, Yves Cara.
Il faut sortir de cette idée que l'électrique remplacera à 100% le thermique, et notamment le thermique qui fonctionne au pétrole. Ce serait une erreur fondamentale. Il y aura un mix énergétique, d'ailleurs notre ministre Jib Barry l'a dit il y a quelques jours dans différentes conférences de presse, et c'est pour ça notamment que la France est pour l'hybride rechargeable ou l'hybride classique. Donc voilà, donc c'est pas être pour ou contre l'électrique. Il y aura de l'hydrogène, il y aura de l'électrique, il y aura du biogaz, il y aura du carburant de synthèse, il y aura de tout ça.
Il y aura du
de l'air comprimé aussi. Il y a des voitures à air comprimé, tout à fait, à qui Nice. Existent aussi. Pourquoi est-ce qu'on n'y reviendrait pas ? Donc, attention au terme voiture propre. Ouais. Parce que quand on vous dit voiture électrique, OK, il n'y a pas d'émissions, mais il y a production, évidemment, de pollution, quelle qu'elle soit, pour la fabriquer. Et surtout, il faut se poser la question, notamment en Chine, comment est fabriquée l'électricité ? En France, on est très, très bien avec le nucléaire. En Chine, vous avez plus de 1000 centrales à charbon. Ils prévoient d'en ouvrir 600. Donc, ils peuvent mettre toutes les voitures électriques qui volent, si c'est à charbon, c'est nul.
En tout cas, la pollution est en Chine, elle n'est plus en France. À la limite, c'est un progrès égoïste, mais on peut quand même aussi le souligner. Quoi qu'il en soit, Yves Cara, autre question. On a fait ce débat dans les vraies voies à la veille du chassé-croisé volontairement. En général, les Français vont, par exemple, de Marseille jusqu'à, pourquoi pas, jusque dans le Roussillon ou ailleurs, de Paris jusqu'à Marseille. Est-ce que, pour les grandes distances, c'est possible de se déplacer en électrique?
Oui, c'est possible, quand on a le temps.
Voilà, parce ça aussi rapidement.
Oui, oui, non, mais bon, il est très clair qu'aujourd'hui, le même trajet, si vous voulez Paris, on va dire aller Bordeaux ou l'île de Léron, c'est 4 à 5 heures en plus. Voilà, ça c'est très clair, pour le temps de s'arrêter, de recharger.
Il y a des bons restos,
Pardon Yves, mais ça dépend avec quel type de véhicule, parce qu'aujourd'hui, vous avez des voitures avec des autonomies de 500 km, et Tesla annonce pour l'automne prochain une autonomie de 800 km, ce qui est énorme.
Tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter une Tesla.
Non, mais alors, là, en l'occurrence, 500 km, aujourd'hui, on va de plus en plus vers ce type de voiture, 500 km d'autonomie.
Yves Cara.
Alors, je vais vous expliquer quelque chose. Il se trouve que pour des raisons professionnelles, avec Vinci Autoroute et Radio Vinci Autoroute, une autre radio qui est sur l'autoroute, et l'Automobile Club Association, je fais chaque mois de juillet près de 6000 km sur tout le sud de la France. Et cette année, je le termine justement aujourd'hui, j'ai fait plus de 6000 km avec une hybride rechargeable. Donc je me suis arrêté sur les aires d'autoroute, j'ai rechargé dans des petits villages, et j'ai beaucoup discuté avec les personnes qui ont des voitures électriques, pas seulement des Tesla. Dites-vous bien que l'autonomie d'une voiture électrique, et je le tiens des usagers, n'est que de 60% à l'usage de l'autonomie annoncée. Pourquoi ? Je vais vous expliquer. Parce que vous ne prenez jamais le risque d'être à moins de... Alors attention, soyons clairs. À l'Automobile Club Association, on n'est pas contre les voitures électriques. Mais il faut être très clair avec ce qui est annoncé. Donc vous ne prenez jamais le risque d'être à moins de 20%, donc en bas de l'autonomie annoncée. Et pour recharger la batterie de 80% à 100%, c'est très long, c'est compliqué, la batterie n'aime pas, vous réduisez sa durée de vie. Donc, à l'usage, vous n'avez que vraiment 60% de l'autonomie. Donc, quand on annonce 500 km, vous prenez 10%, vous multipliez par 6, ça fait 5 fois 6, 300 km. Donc, à l'usage, encore une fois, bien sûr, que si vous allez de 0 à 100%, vous avez 500
km. Autre question, question complémentaire, vous allez reprendre la parole aussi, sur l'autoroute. Yves Cara, on a tendance à aller à 130, c'est la limitation de vitesse. Est-ce que la voiture électrique, enfin la motorisation électrique, elle supporte ce genre de vitesse?
Oui, complètement.
Sur
complètement.
La durée?
Oui, sur la durée, 130 km. Vous aurez une autonomie moindre que si vous êtes à 110. Mais oui, tout à fait, vous pouvez rouler à 130 km/h. Maintenant, il est vrai que les voitures électriques, aujourd'hui, ce n'est pas vraiment fait pour les longs trajets autoroutiers, sauf effectivement les Tesla. On en voit de plus en plus parce qu'ils ont un réseau de recharge dédié, qui n'est pas gratuit. Il faut bien dire que la recharge électrique n'est pas gratuite. Et puis souvent, on les voit derrière les camions prendre l'aspiration pour rouler et dépenser le moins d'énergie possible. Alors avoir une voiture à 80 000 euros pour rouler à 110 derrière un camion, je ne pense pas que ce soit une bonne idée.
Morad, puis Véronique, puis Alain.
D'abord, il existe un championnat de Formule 1 électrique, donc c'est bien la preuve que ces voitures-là ont une vraie puissance.
Bémol d'Yves Cara.
C'est pas de la Formule 1 électrique, c'est de la Formule électrique qui n'a rien à voir avec la Formule 1.
Alors pardon pour avoir vu par exemple à Paris sur les Champs-Élysées et surtout au Trocadéro la compétition, je peux vous garantir que les voitures vont très très vite, c'est le bruit du moteur qui donne l'impression qu'elles vont moins vite. Ce que je veux
c'est moi qui vais vous rappeler deux ou trois règles. Je vais vous laisser répondre, Cara. Je vais vous laisser lui répondre. J'ai laissé terminer son raisonnement à Morad et ensuite vous le fact-checkerez. On va le dire en anglais comme ça. Morad.
Alors non, à propos évidemment de l'autonomie, ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que la technologie pour les voitures électriques évoluent à vitesse grand V. On voit par exemple qu'en Norvège, 50% de la population possède une voiture électrique. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, tout ce qui va être développement du génie justement sur les voitures et sur le carburant, en l'occurrence là, l'électricité, je peux vous garantir que demain, nous aurons des bornes. Parce que nous aurons des voitures. Parce que tout ça, il faut le favoriser. Si on regarde ce qui se passe en Norvège, l'État a favorisé justement l'achat de voitures électriques en donnant des primes conséquentes aux usagers.
Est-ce que c'est la solution ? Yves Cara, vous allez répondre à la Oukili.
Alors moi, ce qui me pose un vrai problème, c'est comment l'industrie de la voiture électrique évolue, mais il y a quelque chose qui ne va pas changer, c'est qu'on a besoin d'électricité, en fait. Et que je sache,
les calculs disent que les Français parcourent chaque année 725 milliards de kilomètres. Calculons ça en électricité, ça fait 90 TWh de plus d'électricité, soit la production de 30 000 éoliennes.
C'est pour ça que vous étiez sur votre calculette. Du coup, en gros, vous avez peur qu'on ne puisse pas subvenir aux besoins électriques
des
voitures.
Non, je veux surtout qu'on ne favorise certainement pas, du coup, la voiture électrique aujourd'hui, parce qu'on est en train de se complètement s'amputer de ce qui fait notre électricité. Il est hors de question que l'on ait 30 000 éoliennes sur le territoire français, sauf si vous voulez une guerre civile et défigurer tout le pays.
Ça, c'est un autre débat, les éoliennes, mais j'ai compris ce que vous disiez.
Mais du coup, installations électriques.
Non, et puis on a abandonné deux projets quand même extraordinaires à des EPR, des centrales nucléaires de 4e et 3e génération qui sont...
Donc vous avez peur en tout cas qu'on puisse plus les alimenter.
Mais on ne va pas pouvoir, c'est impossible.
Okay. Yves Carra.
Alors, je reviens donc sur la Formule 1 et la Formule électrique, qui sont deux championnats totalement différents, qui sont indépendants, qui n'ont rien à voir et qui sont complémentaires.
D'accord.
Et les formules électriques n'ont rien à voir.
Je répondais juste à la question de Jean-Marie qui demandait si les voitures électriques avaient la puissance et allaient vite.
Vous êtes d'accord que ça va vite? Bon, Yves Carra, vous êtes d'accord que ça va vite ou pas?
La notion de vitesse sur un circuit, les Formule 1 et les Formules électriques, ça n'a absolument rien à voir. Et d'ailleurs, les Formule 1 sont hybrides et vont bientôt fonctionner avec un carburant de synthèse. Hein, je le précise, ils ne font pas du pétrole.
Morad nous parlait des aides, justement, distribuées par les Norvégiens pour faire passer plus de la majorité de leur population à l'électrique. C'est la bonne technique ou pas, Yves?
Alors, c'est une technique, effectivement, au démarrage pour aider, pourquoi pas, un mode de fonctionnement, un mode d'énergétique. Mais attention, on ne peut pas se comparer avec les pays nordiques. Je vais vous dire, ne serait-ce qu'au niveau des bornes de recharge. Moi, les 80% des personnes que j'ai rencontrées qui rechargeaient leur voiture n'étaient pas des Français. Donc, n'oublions pas que la France est un pays de passage, que toute l'Europe du Nord traverse la France et qu'il faudra non seulement un réseau de bornes pour les Français, mais aussi surdimensionné pour accueillir tous les étrangers qui traversent la France. Voilà. Et ça, les pays nordiques ne l'ont absolument pas. Donc, ne nous comparons pas. Il n'y a rien de comparable.
Ça augmente, dans ce cas-là, l'importance de la question d'Ala, qui est-ce qu'on aura de quoi, si tout le monde passait à l'électrique, est-ce qu'on aurait de quoi fournir de l'électricité à tout le monde?
Alors notre ministre Djebari l'a dit, dans 2035, si on est tous à l'électrique, il faudra 10 fois plus d'électricité. Et en 2040, il en faudra 15 fois plus.
Pardon, excusez-moi, 4 fois pour 2035 et 18 fois pour 2050.
Voilà, d'accord, merci de cette précision. Vous voyez qu'on en est loin, mais encore une fois, n'opposons pas le thermique, l'électrique, l'hydrogène. On aura besoin de toutes les solutions, et la grande erreur de la Commission européenne, c'est de... Bon, d'accord, on fixe des normes régulières, progressives, raisonnables, mais la grande erreur qu'ils font, c'est d'obliger tout le monde à aller vers l'électrique. Vous savez, l'électrique, c'est pas nouveau. Hein. Au début du XXe siècle, il y avait plus de voitures électriques que de voitures thermiques. Et si le thermique s'est imposé, c'est parce que le rendement énergétique est sans égal. Donc, on y vient, ça progresse. Mais il y a quand même des lois électromagnétiques qui vont être difficiles à contourner, notamment au niveau des batteries, tant qu'on n'aura pas une nouvelle technologie. Donc, attention, on aura besoin de toutes les énergies et ne croyons pas que l'électrique, notamment avec les batteries, remplacera le thermique à 100%.
Véronique Langlais va vous répondre dans quelques instants.
Et de moyens aussi. Et de moyens aussi. Parce que le problème, c'est ça, c'est que le Français n'a pas non plus forcément les moyens de changer de véhicule.
Alors justement, ça c'est la question du coût qui est un des principaux, voire le principal frein à l'achat pour les Français, c'est révélé dans cette enquête Ipsos pour Vinci Autoroute. Vous allez justement revenir sur cet aspect-là, vous qui êtes motarde par ailleurs, Véronique Langlais. J'aimerais qu'on écoute Eric au 0826-300-300. Vous nous appelez de Bordeaux, Eric?
Oui, bonjour.
Bonjour à vous. Bonsoir à vous, mon cher Eric. Bienvenue dans Les Vraies Voix. Vous êtes à Bordeaux, une des métropoles françaises qui va être concernée par les zones à faible émission où il sera clairement recommandé de rouler en électrique, quoi. Vous êtes prêt à y passer?
Oh combien. Alors, j'aime beaucoup votre question. Ce qui est très intéressant dans votre débat, j'écoute avec beaucoup d'assiduité l'ensemble des protagonistes. En fait, vous avez donné l'ensemble du panel des réponses que je vais pouvoir vous fournir. C'est-à-dire, un, le problème du Bordeaux-Paris où il y a 4 heures de plus, donc facteur temps. Dans un usage professionnel, ça c'est pas tolérable. On est dans une société où malheureusement le temps compte double aujourd'hui. Ça c'est le premier point. Ensuite, le facteur pollution de production du véhicule en question et le facteur station, etc. Est-ce qu'on est prêt et est-ce que je suis prêt à faire le saut d'un véhicule électrique pour, je dirais, être un des templiers, si je peux employer le terme, vous voyez ce que je veux dire.
Un croisé.
Du véhicule, voilà, exactement, un croisé du véhicule électrique en acceptant de... Allez, je vais employer un mot français un peu cru, m'emmerder, si vous voulez, tous les jours, non, je crois pas.
Non, vous êtes pas prêt. C'est quoi votre usage, vous, Eric, de la voiture au jour le jour?
J'ai un usage particulier et professionnel, si vous voulez. Moi, je suis quelqu'un qui fait à peu près 35 000 km par an, on va dire en grande agglomération. Je circule sur la région Bordeaux et Aquitaine, voilà, pour des raisons professionnelles. Et j'ai vraiment besoin d'un véhicule sûr qui démarre au garde-poil, qui ne s'arrête pas, avec lequel je ne sois pas obligé de m'arrêter pendant une heure pour recharger, parce que j'ai des, j'ai des journées qui sont très longues. Je démarre assez tôt le matin, je termine assez tard le soir. Je suis, voyez, là, depuis quelques minutes, en vacances théoriques.
Voilà. C'est vrai?
Je vais démarrer quelques semaines de congé, là, parce que l'année dernière a été une année très compliquée, et malheureusement, mon activité m'a pas permis de prendre plus d'une semaine et demie de vacances.
Mais écoutez, voilà. on est ravis de vous, d'être les derniers que vous entendrez avant vos vacances, mon cher. Restez en ligne, ceci dit.
Je vous félicite pour vos émissions, je vous félicite pour tout, et, c'est gentil. Et franchement, c'est un grand plaisir de vous écouter.
Restez en ligne, mon cher Eric, parce que vous êtes en ligne avec Yves Carral, porte-parole de l'Automobile Club Association. Vous avez entendu, Eric, le besoin qu'il en a à 35 000 km sans, je le cite, s'emmerder à attendre une heure pour se recharger sa voiture. Est-ce que cette voiture, elle existe pour Eric ou pas, Yves Carra?
Oui, oui, alors elle existe, ça dépend. Combien est-ce que vous faites de kilomètres par jour, Eric?
Ah, c'est extrêmement variable. Extrêmement variable.
Est-ce que c'est plus de 300 km?
Pas quotidiennement, hein. Pas quotidiennement. Non. Ça m'arrive, il m'arrive de faire plus, mais pas quotidiennement. Ouais.
Et voilà. Plus, c'est combien? C'est important, hein, ce que je vous dis détail aujourd'hui.
Je peux faire 5 à 600 km dans la journée.
Ok.
Donc là, effectivement, dans ces journées-là, dans ces quelques journées-là, peut-être qu'effectivement, il faudra prévoir des bornes de recharge qui seront peut-être toujours les mêmes, si c'est toujours le même trajet. Maintenant, l'électrique sur 300 km par jour, c'est génial. Franchement, c'est très très bien. Et on peut le faire si on a une borne de recharge, soit chez soi, soit au travail, où on est sûr de se trouver, d'arriver et de se recharger.
C'est ça.
Maintenant, quand on doit commencer à utiliser les bornes de recharge, d'abord qui sont payantes, hein. N'oublions pas que par exemple sur les réseaux Ionity, pour le citer, parce que c'est principalement sur les autoroutes qu'on le trouve, c'est 0,79€ la minute. Il faut à peu près 30 à 40 minutes pour recharger 300 km, donc vous avez 30€ pour 300 km.
Ouais. Donc, un petit plein, quoi.
Ouais, sortons de cette idée que c'est gratuit. Ouais. Mais franchement, l'électrique, ça peut être très très bien si... Moi, j'ai vu des personnes qui étaient des retraités, qui avaient du temps, qui étaient à l'électrique et qui prenaient le risque de éventuellement pouvoir dormir à l'hôtel s'ils ne pouvaient pas recharger, parce que c'est la réalité, hein, on le rencontre.
C'est du slow tourisme, quoi, du tourisme tranquille.
Ouais, c'est autre chose. Et le réseau de bornes va se développer, c'est très bien. Mais encore une fois, n'opposons pas le thermique à l'électrique. Libre de rechargeable aujourd'hui, c'est vachement bien.
Ok, en tout cas, on aura compris ce que vous vouliez dire. On embrasse Eric, qui nous appelait de Bordeaux. On vous souhaite de très belles vacances, mon cher Eric. Et vous nous rappelez quand vous voulez au 0826-300-300. Véronique, vous reveniez sur la principale préoccupation des Français qui veulent passer à l'électrique, c'est le coût.
Alors, il y a le coût, mais il y a aussi, par exemple, pour les deux roues. Pour l'instant, il n'y a pas tellement d'alternatives à part les scooters. En moto, on a juste une moto, il me semble, qui est une Harley Davidson. Et ma problématique aussi, c'est pour les artisans, parce que les artisans qui ont besoin de leur véhicule professionnel et qui ont pour l'instant aucune alternative, notamment certains poids lourds pour les boulangers, par exemple, pour les artisans bouchers. Là, pour l'instant, rien n'existe. Donc moi, je veux bien aller dans le sens des lois et dans le sens du bon vouloir des maires des grandes villes, mais il faut quand même trouver les solutions pour les professionnels aussi qui ont besoin de leur véhicule.
Morad ?
Alors, dommage, Eric n'est plus au téléphone, mais je voudrais préciser que pour un Paris-Bordeaux, on peut prendre le train et c'est juste 2 heures depuis Paris. Donc, il faut aussi... Et je pense que c'est un changement de paradigme. C'est-à-dire que c'est un mode de vie qu'on doit faire évoluer. Je suis d'accord.
Bah oui, mais il y a les professionnels
avec
aussi.
Yves, lorsqu'il dit qu'il ne faut pas opposer, évidemment, l'essence avec ou l'énergie... fossile avec l'électricité, je pense que c'est quelque chose qui, de toute façon, nous oblige, nous, à imaginer un nouveau monde. Donc, ça veut dire qu'effectivement, des dispositifs de recharge, il faut évidemment anticiper, c'est ce que je dis, c'est-à-dire que je n'oppose pas, au contraire. Moi, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, en France, on a la chance d'avoir un train qui fonctionne très très bien, qui
relie des
villes, oui, mais qui relie des villes de manière, pour le coup, très rapide. Et le gouvernement, lorsqu'il dit qu'il incite les gens, mais vraiment
mais
à ne pas prendre l'avion...
Tout le monde ne peut pas prendre le train.
À ne pas prendre l'avion et plutôt prendre effectivement le train. Là, je parlais d'un trajet professionnel. Effectivement,
quand on est
Paris-Bordeaux, moi, franchement, quand je vais à Bordeaux, je prends le train. C'est beaucoup plus facile. D'abord, je peux travailler, ça m'évite de conduire. Et en plus, je peux même me reposer si je le
Et vous ne pouvez plus prendre, si vous voulez faire un Paris, par exemple, ou même un Paris-Bordeaux, pour prendre l'exemple, vous ne pouvez plus le faire en avion, vous pouvez toujours le faire en voiture.
En
Est-ce que vous avez peur, Yves Carras, sera ma dernière question, de voir les trajets en voiture être interdits au titre de la pollution en dehors des villes, sur certaines distances? Est-ce que ça pourrait venir?
Bah, si c'est interdit, je participerai aux émeutes et aux manifestations. Hein, parce
qu'il y a pas d'appel à la violence sur Sud Radio,
non.
Quand même.
Non, mais vous savez, encore une fois, arrêtons de fantasmer, parce que on est construit. Vous savez, il y a un chiffre qui est fabuleux, je trouve, en France, qui est le pays de l'automobile, le pays de la mobilité. Hein. Mm-hmm. On a 20% de tout le réseau routier et autoroutier européen. Vous vous rendez compte?
Oui. En distance.
C'est énorme. On a plus d'un million de routes. Chaque ferme, c'était d'ailleurs dans la loi, est reliée au réseau. Donc, c'est un patrimoine, il faut l'utiliser. On aura toujours des véhicules avec 2, 3, 4 roues, 5 roues, 8 roues, avec des personnes qui monteront dedans pour circuler d'un point A à un point B. Ce qu'on veut juste, c'est l'énergie qui nous permet de le faire la plus propre possible. Mais on en aura toujours pendant encore quelques dizaines d'années. Je ne vois pas ce qui pourrait les remplacer. On a eu les voies romaines, puis on a eu les chevaux, puis on a eu les calèches.
On n'arrêtera jamais le progrès, quoi. Et les nouvelles modes.
Merci beaucoup. Et l'entretien des routes.
Et l'entretien des routes.
Oui.
Merci beaucoup.
C'est un beau sujet, ça.
Merci beaucoup Yves Carra, porte-parole de l'Automobile Club Association. On vous posait cette question sur le Twitter de Sud Radio. Seriez-vous prêt à opter pour le véhicule électrique? Vous répondez non à 85% d'entre vous sur le Twitter. À rester avec nous dans quelques instants. Le clin d'œil des vraies voix, c'est avec Alaa Oukili qui va vous parler des chaînes qui vont aider à restaurer et reconstruire Notre-Dame. À tout de suite.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry.
Les vraies voix sur Sud Radio avec Morad Aïtabouche, Véronique Langlais et Alaa Oukili, justement, qui nous présente le clin d'œil des vraies voix. Ce soir, on parle de trois grands chênes centenaires en Ariège qui vont aider à restaurer Notre-Dame. On en parle avec notre invité, Alaa Oukili.
Et oui, Jean-Marie, aujourd'hui direction l'Ariège, plus précisément dans le massif forestier de Bélesta, à Fougax et Barineuf. C'est là où se trouve la scierie de la famille Courant. Les propriétaires viennent juste d'être choisis pour fournir trois chênes de 150 ans pour restaurer la cathédrale Notre-Dame de Paris. Géraldine Courant, bonjour et félicitations. Vous êtes la gérante de cette scierie.
Merci, bonsoir.
Bienvenue dans les vraies voix sur Sud Radio.
Bonsoir.
Alors Géraldine, qu'est-ce que ça vous fait? Vous en êtes où d'ailleurs avec ces chênes? Ils ont été abattus, vous les avez travaillés?
Voilà, en fait, c'est un don d'une autre famille du village, la famille Chaumont, qui a donné ses chênes. Et nous, on les a sciés hier soir.
Est-ce que vous les avez sciés vous-même?
Pas moi, mais quelqu'un qui fait partie de mon entreprise.
Et alors, est-ce que vous en êtes contente, vous en êtes fière?
Oui, parce que c'est deux entreprises qui sont centenaires, donc ça, c'est une fierté de contribuer pour la reconstruction de la flèche de Notre-Dame de Paris.
Ah oui, justement, j'allais vous poser la question. Est-ce que où est-ce que ça va aller dans Notre-Dame? Donc ça n'ira pas dans la charpente, ça va aller dans la flèche.
Ça ira directement sur la flèche, ouais.
Et comment ça va se passer? Vous savez comment ça va être monté?
Nous, on les a sciés, les pièces. On en a scié un peu plus pour vraiment prendre les meilleures pièces. Bon, on en a scié 11, c'est minime, mais voilà. Et ensuite, ça fera partie des chevrons. C'est un peu comme un mikado et ça fera partie...
Et de la flèche, en plus, tous les Français qui avaient vu ça en direct sur Internet ou à la télé, cette flèche s'effondrait, avait eu le... Enfin, c'était à pleurer.
Ouais.
Exactement.
Et alors, Géraldine, j'ai une vraie question à vous poser. Pourquoi...
Les autres étaient fausses?
Non, mais celle-là, c'est celle qui m'intrigue le plus. Pourquoi des vieux chênes? Pourquoi 150 ans?
Parce que, un chêne pour qu'il soit assez solide, enfin que le cœur soit assez serré, il faut que ce soit des vieux chênes. Après donc ils viennent d'une famille qui gère très bien ses forêts, donc la forêt va être replantée pour ceux qui s'en inquiètent. Ouais.
Évidemment, de toute façon, les forêts...
Il va falloir attendre 150 ans. J'ai eu la chance, d'aller à l'intérieur de cette charpente extraordinaire. Ouais, à l'époque où elle existait encore. Avec l'architecte Mouton.
Et on l'appelait la forêt, d'ailleurs. Voilà.
Exactement. Et je peux vous garantir que quand on sentait ce bois, qu'on le touchait, c'était exceptionnel. Parce qu'on sent effectivement ces années dont on parle, 150, 200, 300 ans. Enfin, c'est juste énorme d'imaginer qu'on a construit Notre-Dame au Moyen-Âge.
Merci à vous, Géraldine Courante, participer à cet effort national pour nous rendre la cathédrale Notre-Dame de Paris, mais elle n'est pas que pour les Parisiens.
Elle est à la France et au monde.
Exactement, merci beaucoup.
C'est le point zéro de...
Mais le point zéro de France,
ouais, c'est vrai. L'Europe.
Exactement, juste devant, sur le parvis. Vous pouvez le voir quand vous regardez sur le parvis de Notre-Dame. Merci beaucoup
Géraldine
Courant, gérante de la Syrie familiale de Fougax et Barinov. C'est dans l'Ariège. Merci à nos vraies voix.
Merci beaucoup.
Alaa Okili, vous allez revenir ?
Ah oui,
journaliste Sud Radio, bientôt, cet été en tout cas, dans les vraies voix Sud Radio. Morad Aitabouche, réalisateur de la série Sale Temps pour la planète sur France 5. On vous retrouve la semaine prochaine sur France 5. Et puis Véronique Lenglet, merci beaucoup.
Avec plaisir.
Présidente du syndicat des Bouchers de Paris, la suite de votre soirée à l'écoute de Sud Radio, eh bien, on vous emmène sur les routes de l'été. Ce sera avec l'ami Vincent Fernio.